avec tout ce qui a été dit ce matin, tout ce qui a été chanté, et je pense à cette parole qui dit « Puisque nous avons tout pleinement Christ, à quoi bon chercher ailleurs ?» Un quelconque supplément. Nous avons tout pleinement en Christ. Et puis le verset nous disait « Marchez, marchez en Christ, marchez en nouveauté de vie, conduit par lui, pour lui, avec lui. Et pour la gloire de Dieu notre Père, conduit par le Saint-Esprit, je pourrais dire « Amen » et on pourrait passer à la Sainte Cène. Tout va bien. Mais j'ai quand même deux, trois petites choses à vous dire de la part du Seigneur dans cette lettre de Colossiens que je trouve vraiment admirable. J'ai beaucoup de plaisir à la lire. On sait que Jésus a détruit tout ce qui pouvait nous séparer de Dieu par sa mort et sa résurrection. Il nous a affranchis de tout joug, qu'il soit culturel, religieux, qu'il soit philosophique. Et je vais vous lire le verset 13 à 15 que vous avez médité la semaine dernière avec Samuel. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie. » Avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Dimanche dernier, on était à la prison avec André et puis on chantait un cantique qui nous faisait penser un peu à cette entrée triomphale de Jésus, comme faisaient les Romains dans le temps. Le cortège triomphal des perdants, le malin et toute sa cohorte de démons. Et moi, je m'imaginais, j'en ai parlé avec André et tous ceux qui étaient là, je m'imaginais au garde à vous dans ma plus belle tenue, blanche, immaculée, en train de rendre gloire à Jésus qui passe devant moi, pour sa gloire quand il revient me chercher. C'est comme ça une image qui m'est venue. Et ce texte me fait penser un petit peu à ça. Malgré l'enseignement magistral de cette épître, Paul avait encore des combats à mener contre des personnes qui faisaient circuler de fausses doctrines à Colosse. Et avant d'ouvrir la Bible, on va prier un petit peu ensemble. Eh bien Seigneur, nous avons déjà tellement reçu à travers ces chants, à travers ces temps de communion, la joie d'être ensemble. Et nous voulons vraiment être centrés sur toi, Jésus, l'objet de toute notre affection, toi le ressuscité, le vivant. Et ce matin, j'espère qu'on a encore un petit peu de force, à cette heure-ci, oui, pour être à l'écoute de ce que tu veux nous dire, non seulement écouter et oublier, mais mettre en pratique. Puisses-tu ce matin, Jésus, nous parler par ton action, par l'œuvre du Saint-Esprit. Ouvre nos cœurs à ta parole pour vraiment que nous puissions grandir en toi, Seigneur Dieu. Merci de la paix que nous avons, de cette espérance de la vie éternelle, de ce que nous pouvons chaque dimanche ouvrir la Bible, et être nourri par toi. Quelle grâce, Seigneur Dieu. Que ton nom soit loué en Jésus-Christ. Amen. Alors, le titre du message, c'est « L'impasse du légalisme ». Et j'aimerais qu'on ouvre notre Bible. Les versets vont paraître devant, et puis on termine ce chapitre 2. On lira, et je lirai en tout cas, des versets 16 à 23. Où il est dit « Ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Que personne, sous prétexte d'humilité ou d'un culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Au lieu de s'attacher au chef par qui tout le corps soutenu est rendu cohérent par les jointures et les articulations, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, toute chose vouée à la corruption par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité, rigueur pour le corps, mais qui ne mérite pas d'honneur et contribue à satisfaire la chair, c'est tout. On parle du légalisme, n'est-ce pas ? Il y a celui qui est façonné par nos critères humains, et le légalisme religieux, c'est celui auquel on va se plonger ce matin dans la parole. Alors, le légalisme humain, je l'ai appelé comme ça, consiste à ajouter nos propres règles, que nous justifions des fois par des versets bibliques, Et c'est la forme la plus courante. Mes amis, j'ai une mauvaise nouvelle pour chacun d'entre vous. Nous sommes toutes et tous un peu légalistes. Chacun. Hein? Chacun, on est légaliste. Je l'ai été avec mes enfants, peut-être même avec ma femme. Si c'est vécu dans la sphère personnelle, quand je suis tout seul dans mon coin, ça ferait certain, tu vois, ça va. Mais quand c'est dans la sphère familiale, ça devient un peu plus délicat, hein, pour les proches. Je veux pas juger, mais par exemple, certains diraient, je n'écoute que de la musique chrétienne, le reste, non. J'écoute pas du Brassens, j'écoute pas du Jacques Brel, j'écoute pas ceci, cela. Ok. Chacun ses convictions. Mais ça devient de plus en plus compliqué quand ça se passe dans l'église, quand quelqu'un vient marteler ses convictions. Et on a vécu ça pendant des années dans cette église à Vitenheim, mais malheureusement c'est courant dans beaucoup d'assemblées. Ça crée des tensions, ça crée des conflits, des blessures, des rancœurs des fois, voire même des divisions. Dans le passé, ça vous fait peut-être rire, mais porter des pantalons pour les jeunes femmes à l'église, Chantal, les femmes devaient venir en robe, si possible, bien longue. Hein. Ça, c'est avant que j'arrive à l'église, c'était comme ça. Mais ça faisait partie de certains critères. Bon, un jour, j'avais... C'est vrai que ça peut faire rire, mais à l'époque, ça partait toujours d'un bon sentiment. N'oublie pas, ça partait d'un très bon sentiment. Moi, j'étais venu une fois avec une veste en cuir, et puis quelqu'un m'a attrapé et me dit, pas très biblique, tout ça. Bon, mais j'ai évité la veste en cuir. Et puis quelqu'un disait, si tu avais une cravate, j'écouterais un peu mieux ce que tu as à nous dire du haut de la chair. Ok, j'ai accepté. Hein. À un moment, il y a eu des frictions parce que la Sainte Cène, il fallait la prendre absolument avec du vin parce que le Seigneur a fait ainsi. Oui, mais si on prend du jus symboliquement, c'est pareil, non? Et ça crée des tensions. Voilà, et tous un peu légalistes et quelquefois ça ressurgit et dans notre assemblée. Mais j'aimerais souligner à Vitenheim qu'on a quand même certaines règles qui ne sont pas inscrites dans la Bible, comme celles que je viens de vous citer, mais qui servent à donner un cadre à l'Église, afin de vivre l'Église tous ensemble. Alors ce que je vais vous dire, ça vous fait rire à coup sûr. Évidemment, on ne vient pas en maillot de bain à l'Église. C'est évident. Pour être membre, bien sûr, on est passé par les eaux du baptême, on a adhéré à la confession de foi, au règlement intérieur, la plupart d'entre nous le connaissons, parce qu'on veut vivre l'unité. Pour prendre des responsabilités, évidemment, on encourage ceux et celles qui veulent s'engager à être baptisés ou être dans une démarche de baptême, avoir de la régularité dans la vie de l'Église, parce que c'est une manière aussi d'avoir un bon témoignage envers les jeunes et les moins jeunes, envers ceux qui nous entourent. Maintenant, parlons du légalisme religieux. Ce mot, il se trouve pas dans la Bible. C'est un terme que les chrétiens emploient pour décrire une position doctrinale qui met l'accent sur un ensemble de lois, de règles, qui sont censées apporter un peu plus au salut ou plus de croissance spirituelle. Non seulement les légalistes dans la Bible tordent le sens des Écritures par leur enseignement erroné, mais en même temps, ils exigent une adhésion stricte à leurs pratiques, occultant la grâce de Dieu, par leurs discours séduisants, mielleux, souvent des gens qui ont peut-être du charisme. Et l'apôtre est confronté à ce danger. Trois dangers sont identifiés dans ce texte. Le premier, on en a déjà un peu parlé, mais je vais aller un peu plus loin, le mélange religieux des versets 16 à 17. Après, cette apparence humilité, culte aux anges, les versets suivants, 18 à 19, et puis l'ascétisme. Je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure, la troisième forme de légalisme qui est dénoncée. Le légalisme est susurré à nos oreilles, comme le diable a susurré à Ève. Vous deviendrez comme des dieux. Il susurre à nos oreilles qu'il serait avantageux et édifiant pour notre vie spirituelle de réintroduire certaines pratiques issues de l'Ancien Testament, apportant, d'après ces faux docteurs, une plus grande connaissance de Dieu, une plus grande humilité, un statut de plus grande valeur. En somme, nous deviendrions des chrétiens de classe supérieure, par nos propres efforts. Où est Christ dans tout cela ? Relégué. Moi, j'ai des amis, pour progresser au niveau du sport, ils prennent des protéines pour booster un peu les... D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il faut que je me remette au sport, et Angela a dit, bon, tu parles. En tout cas, on veut booster nos performances. Et quelquefois, le légalisme, c'est, nous fait croire qu'on peut devenir quelqu'un de plus spirituel, de plus mûr, etc. À travers ça, c'est une hérésie totale. Et toutes les religions, sans exception, dressent des règles qu'il faut suivre, qu'il faut pratiquer. Certains font 5 prières par jour, d'autres partent en pèlerinage. Les adeptes du judaïsme visaient à attirer les Colossiens dans notre texte vers des pratiques du passé. Voilà, suivre le calendrier religieux, participer à certaines fêtes, et surtout observer le sabbat, important. Le vrai sabbat se situe en Christ. Depuis notre conversion, nous bénéficions d'un repos, d'une communion vivante avec Dieu, dans laquelle notre âme a trouvé le repos ici-bas, en attendant le repos qui se prolongera dans l'éternité. Plus besoin d'observer une certaine journée. D'ailleurs, Jésus s'en est pris à ces personnes qui se plaignaient de ces guérisons au jour du sabbat. Il disait aux pharisiens, mais vous, la compassion, la bienveillance, l'amour du prochain, vous l'avez mis au fond de votre poche, vous ne le faites plus, vous ne le vivez plus. Règle sur règle. Puisque nous avons tout pleinement en Christ, verset 17, veillons à ne pas nous laisser séduire par ce qui vient du monde, des hommes et du malin. Tous ces principes humains qu'on aimerait rajouter dans nos églises ont été crucifiés, une fois pour toutes, à la croix. Et ces fausses doctrines mettent en porte-à-faux la toute suffisance de Christ, de l'Évangile, de la parole de Dieu. Dans tous les secteurs de nos vies, comme notre sanctification est reléguée au second plan, et c'est grave, la source de toute bénédiction, Dieu. Terrible de faire ça. Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1, pour ceux qui notent. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas à nouveau mettre sous un joug quelconque, sous le joug de la servitude. Un frère, un jour, j'étais tranquillement sur mon canapé un dimanche, et il faisait des foires à Colmar. Il me dit, viens, j'ai rencontré des chrétiens formidables, il faut vraiment que tu viennes. Je leur ai parlé de toi, il faut que tu leur parles, et j'arrive. Et puis, ce frère, tout doucement, enfin, je ne sais pas si c'est un frère, en tout cas, voilà, un peu sectaire comme ça, il me parle, me dit, viens dans notre communauté. Déjà là, je me méfie, évidemment. Viens dans la communauté, et puis montre des photos. Les femmes avaient des cheveux longs, des robes longues à fleurs, un peu, voilà. Et puis elles dansaient en rond, un peu, tout ça. Et puis il dit, viens, vends tous tes biens, suis-nous. Je te ferai des sandalettes comme moi, super. Je vends ma maison pour quelques sandalettes. Et nous sommes le nouveau peuple d'Israël. Waouh, ça fait quand même beaucoup de défauts hein, dans la cuirasse. Donc je l'ai gentiment remercié en disant non, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous me dites au niveau doctrinal. C'est totalement faux. Et j'ai prévenu mon ami, je dis, éloigne-toi de ces gens-là. Qu'importe le discoureur et sa théorie élaborée, ou peut-être ses paroles séduisantes, il est essentiel d'analyser toute chose à la lumière de la parole de Dieu, et en général, il n'y reste plus rien. Plus rien du tout. Et puis, je parle peut-être aux jeunes, je sais que des fois vous êtes sur Internet, à droite, à gauche, si quelquefois nous sommes à l'écoute d'un podcast, d'une vidéo, d'une prédication, et si vous êtes troublé par ce qui a été dit, vous avez des questions, des interrogations, c'est la même chose, hein. Ben, venez voir les anciens, ou quelqu'un, un aîné, une sœur, un frère, dit, tiens, là, je suis un peu troublé par ce qui a été dit, j'aimerais en savoir plus, j'aimerais partager ça avec toi. Faites-le sans hésiter, on est là. Et puis, le deuxième aspect semble loin de nous, quand même, hein, ce culte aux anges. Ouais. Quel danger pour une église lorsque quelqu'un se déguise avec une fausse humilité, nous apportant un message avec l'orgueil sous-jacent. Les gens orgueilleux, sous fausse humilité, cherchant à dominer, à apporter une fausse parole, un faux enseignement. Ces impies orgueilleux, verset 18, adoraient les anges qu'ils présentaient, j'ai vu ça dans les commentaires, hein, comme des médiateurs entre Dieu et l'homme. Ils étaient prétentieux, propageaient des mensonges concernant de soi-disant visions qu'ils avaient dans un état second, comme l'extase, méprisant aussi ceux qui n'en avaient pas. Il vous manque quelque chose. Nous sommes de classe supérieure. Mon frère, il te manque quelque chose. Fais ceci, fais cela. Regarde, imite-moi. Tout ça, c'est des hérésies. Il y a bien des années passées, quand j'étais tout jeune chrétien, il me manquait quelque chose. je parlais pas en langue. Et pour des frères d'une autre église, maintenant tout ça, ça a été aplani. Dieu a apporté de la sagesse. Il disait, tu parles pas en langue, t'es pas sauvé. Comment je suis pas sauvé? J'ai confessé Christ, j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai cette assurance de mon salut, etc. Mais voilà, ça crée des tensions. Il me manquait quelque chose. Tout ça, c'est du passé, mais c'est arrivé. Jérémie, dans l'Ancien Testament, condamnait déjà son époque. Ses faux visionnaires, chapitre 23, notamment des versets 25 à 26, il dira « J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, une vision, si vous préférez. » Et Dieu qui parle en disant « Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, la tromperie de leur cœur ?» Nous le savons, et ça a de graves conséquences aujourd'hui, certaines religions sont issues de révélations angéliques. Certaines religions, surtout l'une qu'on connaît bien. Et Galates chapitre 1, verset 8, est catégorique, nous dit « Si un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que moi je vous ai prêché, Paul, qu'il soit anathème. » Il ira encore plus loin dans Corinthiens 11, verset 14. Il dira « Mais tout ce qui se passe n'est pas étonnant, Satan lui-même se déguise en un ange de lumière pour séduire. » Induire en erreur, nous éloigner de la source de toute bénédiction, de toute grâce, de tout salut, Jésus-Christ. Paul exhorte les Colossiens, verset 19, à demeurer ancrés en Christ, qui est la tête de son corps, qu'est l'Église. Il en est le chef. Et donc, chaque disciple, comme les jointures les uns aux autres, unis les uns aux autres, on peut puiser en Jésus-Christ. Et uniquement Jésus, tout ce qui contribue à notre croissance spirituelle, mais aussi dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans l'enseignement, on peut grandir les uns avec les autres dans ce que nous vivons, dans notre vie d'Église, quand notre prédication est conforme à la parole de Dieu. Pourrions-nous trouver une lumière plus vive, une assurance plus parfaite, une sainteté, une bénédiction plus accomplie que celle qui se trouve en Christ? Bien sûr que non. La Bible affirme, en parlant de ces soi-disant anges qui seraient médiateurs entre Dieu et les hommes, la Bible affirme en 1 Timothée 2, verset 5, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je n'ai pas bien entendu, c'est Amen, c'est Jésus-Christ. C'est tout. Pas enlevé, pas rajouté. Tout don merveilleux, toute grâce excellente viennent de Dieu, il n'y a rien de plus à y ajouter. On referme le livre. Alors un petit conseil, évitons, parce que là les anges ça paraît tellement vieux ce truc, mais évitons aujourd'hui toute expérience mystique sous couvert d'une ouverture au monde spirituel. Toutes ces réalités-là, ces courants philosophiques mystiques sont légion et on le voit en poupe. Des fois on se dit « Ah, je vais lire un petit peu l'astrologie, c'est pas grave, juste pour voir ce qui est dit sur mon signe. » Mais tout ça c'est déjà ouvrir la porte aux malins. Les voyants, les cartomanciennes sont vraiment légion. Je pense à ce collègue de travail qui, je l'avais prévenu, je lui ai dit, ne fais plus ça. Il a été voir une cartomancienne. Dès qu'il est rentré là-dedans, elle lui a dit, t'as le bonjour de ta grand-mère, ton grand-père. Et il a cité les noms, de ces personnes. Et lui, déjà là, il savait plus où il était. Bref, je vais pas plus loin. Il est ressorti, très angoissé, pas bien dans sa peau. Un peu oppressé à l'intérieur de lui-même. Je dis, mais oui, t'as ouvert la porte au malin. Tu te mets sous un joug. Il n'était pas bien du tout. Et on a prié ensemble pour que le Seigneur lui offre la paix. Non, on ne joue jamais avec ça. Jamais on peut jouer. On a vu jusqu'ici, dans cette section, que Paul a condamné avec détermination, avec fermeté, l'enseignement erroné de ceux qui prônent un mélange religieux, fait du judaïsme, de philosophie, de culte angélique, etc. Maintenant, il s'attaque à l'ascétisme, c'est notre troisième point du message. Ça veut dire quoi l'ascétisme? Mener une vie austère, une forme de piété religieuse, s'imposer des exercices de pénitence, de privation, jeûner, etc. Discipliner sa chair. Durant des siècles, nos amis catholiques ne devaient pas manger de viande le vendredi. Durant le carême, on connaît, c'est pas si mauvais, mais durant le carême, on allège un peu son contenu, son repas. Et d'autres comme les Mormons, c'est un exemple, Ils disent que personne ne peut être un bon membre d'église, autant dire la plupart d'entre nous, puisque nous buvons du thé et du café. Voilà, c'est un principe. L'ascétisme. Plus boire de thé, plus de café. Ça paraît anodin, mais non, c'est pas si anodin. Peut-être ne pas aller au cinéma, ne pas participer à certains spectacles, on s'impose des règles d'ascétisme pour croître, enfin, l'impression de croître en piété. On peut éviter certaines choses, mais quand ça devient une forme d'imposition, un joug, c'est pas une bonne chose. Christ nous a affranchis pour toute liberté. Et pourquoi devrait-on se laisser persuader, suivre des restrictions dans l'Église, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, et quoi encore, au nom de quoi, au nom de qui? Seule la Bible a autorité. Ce sont des ordonnances charnelles qui asservissent et ne servent à rien devant Dieu. On ne peut pas avancer d'un iota avec ça dans la certitude de notre salut. Ils ne servent qu'à satisfaire nos propres désirs, gratifiant l'orgueil de ces discoureurs, la satisfaction de soi par ses efforts. Voilà, je suis un super chrétien, j'étais capable de faire ceci, cela. Tout en méprisant ceux que l'on juge peu spirituels. Mon frère, ça fait tant d'années que tu invites un mais tu en es encore là. C'est violent tout ça. Fais plus ceci, fais cela, ne fais pas cela. L'ascétisme. Une sorte d'obligation, comme si ça rajoutait quelque chose à la perfection absolue du salut accompli en Christ. Pas du tout. Ça nous remet sous le joug de l'esclavage. Et tous ces éléments que j'ai déjà cités, c'est comme si on remet Jésus sur la croix, puisqu'il est mort pour toutes ces choses. Et si j'adoptais certaines lois tirées de l'Ancien Testament, et si j'adorais des idoles, et si je m'infligeais toutes sortes d'abstinences, ferait-il de moi un homme meilleur? Moi, je demanderais à ma femme, tiens. Un homme plus sage, plus spirituel? Absolument pas. Sans la puissance de Dieu agissant en nous par son esprit, nous pourrions prétendre lui être agréable d'aucune façon. Seul le Seigneur produit dans nos cœurs le désir d'œuvrer pour la gloire de ce nom, motivé par notre amour pour lui. Parce que, comme je l'ai déjà dit, toutes ces ordonnances viles et charnelles, peut-être séduisantes, ont été crucifiées à la croix. Je suis crucifié avec Christ, Galates 2, verset 20, magnifique verset. Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. L'homme ne sera jamais justifié de quelque manière qu'il soit, par les œuvres de la loi ou par une quelconque pratique supplémentaire, soi-disant édifiante, spirituelle, etc., comme l'ascétisme. Mais il est justifié, déclare juste, par la foi en Jésus-Christ, c'est tout. Je sais que vous êtes déjà convaincus, mais je vais aller au bout du message quand même. La vraie sagesse, la juste connaissance, c'est de s'en tenir à ce que dit l'Évangile, et toute la parole de Dieu d'ailleurs, dans une soumission et une entière obéissance à Christ, sans les œuvres de la chair. Verset 20 nous le dit, nous sommes morts avec Christ à tous ces principes élémentaires, qu'ils ne refassent plus surface dans notre vie. Et au verset 23, Paul met en lumière encore l'inutilité de ces enseignements, qui sont voués à la corruption. Ils vont passer à travers le feu et être détruits. Et ces pratiques, au fond, n'entraînent aucune transformation intérieure, c'est du flan. Évidemment, vous le savez comme moi, le Nouveau Testament liste des choses à ne pas faire pour notre bien et celui d'autrui. Le code de la route, comme exemple, petit exemple, bien appliqué, est fort utile pour soi-même et pour les autres, évidemment. Paul dit aux Romains, chapitre 14, versets 17 à 18, « Le royaume de Dieu, c'est pas le manger, le boire, ni toute forme d'abstinence. » C'est moi qui l'ai rajouté. Hein. « Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière lui sera agréable et approuvé des hommes. » Pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Fuyons tout ce qui est corruption. S'astreindre à des privations ne produit pas la pureté, ne peut guérir mon âme des combats qu'il a avec le péché. Le légalisme enferme ses adeptes dans une impasse. Respecter loi sur loi ne fait qu'asservir et cloisonner les gens dans un carcan ne laissant aucune place pour la liberté. Il y a bien des années, quand mes enfants étaient plus petits, on a été à la foire de Mulhouse. J'espère que ça ne vous choque pas, mais on était à la foire de Mulhouse. Il y avait des manèges. Et puis ma fille Amalia, elle se dit, tiens, j'aimerais bien aller faire un tour dans le labyrinthe. Il y a un labyrinthe de verre. Et Alexis, il rentre là-dedans, lui, tac, 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 il trouve la sortie. Et ma fille, bam, elle se cogne. Et boum, elle se recogne. Et nous, en tant que parents, on a le cœur serré, on dit, chérie, mets les mains, fais attention. Et boum, et puis elle n'arrivait plus. Mon fils était là, il dit, fils, si tu veux bien, Alexis, va la chercher. Montre-lui la sortie. Le légalisme, c'est un peu comme le labyrinthe de verre. Au début, c'est sympa. On met quelques lois, ça cloisonne, ça rassure, ça donne peut-être le ton, une direction, et au bout d'un moment, c'est un carcan. Ça nous place sous un joug. Et pour être libéré de ça, évidemment, je voyais mon fils, mais Christ est venu à notre secours pour nous libérer de ce joug de l'esclavage, de toute cette religiosité qui pesait sur nous. Et on a été délivré de tout ça par Jésus-Christ. Béni soit son nom. Alors le légalisme et les fausses doctrines sont toujours là sous une autre forme. Je l'ai dit tout à l'heure, attention aux réseaux sociaux, parce qu'il y a de tout, et les choses les plus farfelues. Donc attention à ce que vous écoutez, à ce que vous analysez, à ce que vous recevez. Passez tout au crible de la parole de Dieu, ça a créé bien des dégâts tout ça déjà. Dans certaines familles, certaines églises. C'est vrai que dans le siècle dernier, c'est pas, il y a pas longtemps, il y a 30 ans, 40 ans, eh bien, la tendance penchait vers le légalisme. On y mettait des lois, des règles. Mais en 2026, les choses ont bien changé, ont bien évolué. On constate une autre tendance, celle de nuancer certaines règles bibliques, doctrinales, histoire de se conformer au monde, de pas être tapé sur les doigts. Ce monde qui nous met la pression, nous targuant d'aérer, de ne pas vivre à son époque. D'être des fondamentalistes. Quand on entend le terme évangélique souvent à la télé, on dit c'est des fondamentalismes. Oui, on est fondamentalement ancré sur la parole. Mais fondamentalisme, on dirait des intégristes, quoi. C'est pas ça. Et on pourrait peut-être être tenté d'adopter une posture plus laxiste concernant certains sujets sociétaux. Épineux, comme la question de l'euthanasie. L'avortement, la théorie du genre, etc. Et pour plaire, certains aussi évitent d'aborder certains sujets, comme la conséquence du péché pour l'homme. Certains ne prêchent plus sur la réalité de l'enfer. C'est la mauvaise presse. Puis finalement, ces sujets, on n'en parle pas trop. On se met pas trop en avant de peur d'être jugé, d'être, voilà, d'extrémiste, etc. Et c'est un danger pour l'Église de ne pas être centrée sur la parole et de ne pas oser dire ce qu'elle dit avec amour, avec sagesse et discernement. La Bible, c'est la Bible. On ne peut pas renier ses réalités spirituelles, même sur des sujets aussi complexes. Le libéralisme, ça veut dire on ouvre les portes à tout, hein, libéralisme chrétien, ça existe, hein, enfin. Ça sévit dans le milieu. Il remet en cause l'autorité de la Bible et donc son infaillibilité. Ça veut dire que toutes les doctrines essentielles tombent, s'effondrent. Et c'est grave parce que la divinité de Christ est contestée. On dit, oui, c'était un homme de bien, voilà, mais non, attendez, qu'est-ce qui se passe? Le mariage entre personnes du même secte est célébré chez certains, chez ces chrétiens libéraux. Mais finalement, ils s'aiment, ils sont gentils, ils lisent la Bible, ils la connaissent. Après tout, avant du jet. Et puis un dernier exemple actuel encore, c'est alors moins chez nous, mais plus en Outre-Atlantique, et vous savez bien que ce qui est là-bas arrive souvent ici, bien des années plus tard, c'est l'évangile de prospérité, disant que Dieu souhaite que les chrétiens soient en bonne santé, soient heureux, et qu'ils soient riches. Monnaie, monnaie. Le Dieu argent fait son retour. Un certain Tilton dit, trouvez cette théologie dans la Bible, et il invite à prier dans ce sens, que Dieu leur accorde la richesse. D'ailleurs, il est en train de dire, mais Dieu ne peut pas refuser, il peut pas. Il est obligé de répondre à vos insistances. Et mes amis, c'est faux tout ça. C'est pas biblique. Là, je fais juste un tout petit résumé, hein. C'est une catastrophe. 2 Timothée 4, verset 3, nous dit ceci. 2 Timothée 4, verset 3. Il viendra un temps. Et on y est déjà, hein. Où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses qui leur plaisent, qui leur fassent du bien, qui soient agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Voilà le danger. La Bible nous exhorte à être vigilants, à rejeter toute fausse doctrine à la mode. Et c'est ce que nous voulons faire ici à Wittenheim. Et c'est ce qui est fait depuis des décennies, comme le dit Paul à Timothée. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. C'est notre volonté ici. Un certain Pascal Denot, qui a écrit un livre très excellent qui s'appelle Solas, vous invite à le lire, tiens, Solas, seul. L'Église du Seigneur Jésus doit être fondée sur la parole de Dieu. Et nous prêchons sur les cinq piliers qui soutiennent l'édifice. L'Écriture seule, la foi seule, la grâce seule, Jésus-Christ seul, et le dernier, à la gloire de Dieu seul. Voilà. Colossiens 2, verset 3, et vous l'avez lu et entendu prêcher la semaine dernière, en Jésus se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse, de la connaissance divine. Il n'y a plus rien à rajouter. C'est fait, en Christ, il y a tout ça. Notre croissance, notre maturité, etc., etc., se situe uniquement dans notre Dieu 3 fois saint. Nous avons tout pleinement en Christ, je l'ai déjà répété. Il n'y a rien à retrancher et surtout rien à rajouter sur la sainte parole de Dieu. Et quand on demeure quotidiennement Jésus le ressuscité, on peut goûter à sa douceur, à son amour, à sa puissance de vie et comprendre de progrès en progrès la perfection de son salut quand on est fixé sur la parole de Dieu. Rien à rajouter, rien à retrancher de ce que la Bible dit concernant l'œuvre du salut accomplie par Christ pour nous. Et personne ici dans cette église n'a le droit de vous contester votre position d'enfant de Dieu. Celle que nous avons en Jésus-Christ. Je lirai un passage courtement dans Romains 8, que vous connaissez bien, évidemment. J'arrive, voilà. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Nous avons tout pleinement en Christ, la pleine liberté. Ne nous replaçons pas sous un joug quelconque, sous la parole d'une personne, que sais-je. On a pu constater que le légalisme mène à une impasse. Deux raisons déjà, au moins deux raisons. Ça replace sous l'esclavage d'une quelconque loi, nous faisant croire que nous pouvons contribuer à nous-mêmes, à notre salut, à notre croissance. En conséquence, tout cela nous éloigne de la grâce divine et nous replace sous un joug. Ne nous replaçons pas sous l'esclavage quelconque, pensant contribuer par nous-mêmes à notre salut. Et puis la deuxième conséquence, qui est sournoise mais très présente, se repositionner sous la loi, sous certains rites, bah, du coup on est un peu plus accepté dans le monde, d'une certaine manière, on trouve sympa quoi. Mais se repositionner sous la loi est un prétexte pour ces faux docteurs de troubles d'éviter, écoutez bien, de se soumettre à l'autorité de Christ, mais surtout évitant le scandale de la croix et la possible persécution. Quand on se replace sous la loi, sous certains rites, et qu'on prêche plus la croix, eh bien on évite la persécution. L'apôtre Paul disait « La croix, c'est un scandale, mais pour moi, elle est gloire. Gloire et victoire. » Et un certain Andrew Murray, par 79 à 80, je sais que tu aimes bien Ligna, c'est grâce à toi que j'ai connu cet auteur. Je vous invite à aussi lire très très édifiant André Murray. « Jésus a pris ma croix pour sienne, je dois prendre sa croix pour mienne. » Jésus a pris la croix pour moi. Maintenant, par amour pour lui, par obéissance, je prends la croix, je la porte. Et c'est ce que n'aime pas le légalisme, prendre la croix et souffrir pour Christ. Porter sa croix, c'est être semblable à Christ, suivant sur le chemin de l'obéissance. Porter sa croix, c'est s'abandonner totalement à Jésus. Abandonner totalement toute volonté propre, tout légalisme, c'est refuser les plaisirs de la chair, la satisfaction de ses désirs, se séparer complètement du monde avec sa manière de penser et d'agir. C'est notre vocation. Je suis persuadé, dit Paul aux Philippiens, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous n'avons désormais qu'une règle, si je peux me permettre à suivre, une loi pratiquée, obéir à Jésus-Christ. Marcher dans ses pas. Et peut-être la semaine prochaine, il y aura la suite de Colossiens où il dit, si donc vous êtes ressuscité à Christ, c'est notre cas, n'est-ce pas? Eh bien, cherchez les choses d'en haut, le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et je ne peux pas m'empêcher de lire ce verset 4 merveilleux, parce que quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous avons tout pleinement Christ. Toutes les bénédictions les plus extraordinaires se trouvent en Christ. Et je termine avec ce verset, le Thessalonicien qui dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Je prie. Allez, je prie. Seigneur, merci pour ta parole, merci de nous garder de tout joug, de toute déviation, de tout obscurantisme. Seigneur, nous voulons tourner nos regards sans cesse vers toi, l'objet de toute notre affection, de notre amour. C'est vrai, ça fait peur porter sa croix. Mais celui qui ne veut pas la porter n'est pas digne de toi. Nous devons te préférer à un tout tas de choses et de personnes. Seigneur, prends toujours la première place dans nos vies. Et si jamais il y a des craintes, si jamais on sent des tensions à cause de ton nom, eh bien, remplis-nous de sagesse, de ton esprit pour parler à nos contradicteurs. Donne-nous la force qui vient de toi. Remplis-nous sans cesse, augmente notre foi quand on en a besoin. Merci pour ta parole, qu'elle soit vraiment l'objet de notre lecture. Et que toi, tu sois l'objet de notre adoration, Jésus, toi qui nous as tant aimés. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Garde cette église de tout faux frère ou faux sœur qui viendrait avec un discours mielleux séduisant, cherchant à nous éloigner de toi, de ta croix. Seigneur, à chaque fois que nous sommes tentés de vivre une quelconque expérience, puissions-nous nous jeter aux pieds de ta croix et rechercher en toi le secours et le réconfort et l'éclairage dont nous avons besoin. Merci Père éternel pour ton amour, ta présence. Merci pour tes bienfaits. Amen.